Ah, est-ce qu'on est bien là?
Ouais,
on est bien. Ouais.
On allumerait pas la radio?
Ouais.
Bon, on s'écoute Bartas alors, hein?
Ouais.
On s'écoute Bartas?
Ouais, on s'écoute Bartas.
On s'écoute Bartas.
C'est sur 107, ça?
Les matinales de Bartas, de 8h à 9h, sur le 107 FM.
Bon, allez, ambiance, bruit de plage.
Et bonjour à tous et bonjour à toutes, auditeurs et auditrices, et bienvenue dans les matinales de Radio Bartas. En ce merveilleux vendredi 18 mai 2018, il est 8h, on est ensemble jusqu'à 9h pour vous réveiller dans la joie, dans l'amour et dans la bonne humeur avec Ben. Salut Ben.
Salut Camille, salut à toutes et
à tous. Salut, comment vas-tu?
J'ai la patate comme
t'as la patate, t'as dans l'amour, dans l'amour.
L'amour, la joie et
l'amour. Amour, oui, comme ça. Ben.
Oui.
Ben, le monde marche sur la tête.
Ah, tu m'étonnes, comme aujourd'hui, je milite pour un nouveau président.
C'est pas vrai?
Ah ben, je t'assure. Et celui-là, il envoie du lourd. Je trouve que franchement, il pourrait largement dépasser tous ceux qu'on a eu avant.
Mais non.
Ah, mais il est génial.
Pourrait être mieux que Chirac.
Magique.
Mieux que Pompidou.
Ouais.
Oh là là, mais c'est, alors c'est la folie. On atteint des sommets.
On atteint des sommets.
C'est la folie. On vous diffusera, auditeurs, auditrices, un petit témoignage. Un petit témoignage qui nous vient de Brice et Martin du collectif FS, qui ont quelques retours à faire sur une situation qui s'est déroulée lors de la nuit de samedi à dimanche au Festival d'Olt au Blémard. Juste, voilà, on en parlera un petit peu plus tard, hein, je vous laisse découvrir, mais c'est juste, on va parler d'une situation assez intéressante. Et puis, tout à l'heure, je vous diffuserai une interview que j'avais fait lors du 48 images secondes, de nouveau cet accent québécois merveilleux, d'un réalisateur que j'ai découvert lors de ce festival et qui a fait un film qui m'a profondément touché, qui était fantastique. Et donc, quand j'ai eu la chance de l'interviewer un petit peu sur son travail, j'étais tout content. C'est Louis Bélanger, le film s'appelait Gaspard Blues et c'est un chef-d'œuvre absolu. Si vous ne l'avez pas vu, je vous engage à le voir, mais surtout je vous engage à écouter comment lui perçoit son travail. Le tout avec une bonne petite programmation musicale, bien évidemment, comme tous les matins, mais je vous propose de commencer cette émission par les petites infos. Qu'est-ce qui se passe donc dans le monde aujourd'hui, de quoi qu'on cause? Qu'est-ce qui se passe dans le monde aujourd'hui?
On sait pas. Tout le monde ment.
Alors, deux choses ce matin, auditeurs et auditrices, une un peu plus énervante que l'autre, pour changer, mais je vous garde une petite info rigolote pour la fin, vous allez voir, ça va être mignon. Mais on fait un retour, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais lundi, on parlait justement du fait que la maladie de Parkinson avait enfin été reconnue comme maladie du travail liée aux pesticides, après des années et des années et des années de combat. De la même manière que l'amiante, depuis les années 70, on savait que c'était de la merde, mais il a fallu attendre les années 90 pour que ça soit officiellement reconnu, même la fin des années 90, 98 si je ne dis pas de bêtises, pour que ça soit reconnu comme une maladie professionnelle. L'art Parkinson lié aux pesticides est officiellement reconnu, ça c'est un fait, ça ne bouge pas, mais le problème, c'est qu'au-delà du fait de reconnaître une maladie professionnelle, eh ben, il faut quand même des fonds d'indemnisation aux victimes. Et sur les pesticides, il y a juste, ça vient de se passer, un veto du gouvernement au fonds d'indemnisation des victimes. Je vous lis l'article qui est un tout petit peu lourd et un petit peu compliqué, auditeurs et auditrices, mais restez avec nous, vous allez voir que ça vaut le coup. Élargir le tableau des maladies professionnelles et financer la recherche, c'est ce que propose le gouvernement, qui refuse de soutenir la création d'un fonds d'indemnisation de toutes les victimes des pesticides. Le tout sur fond de déclarations d'Agnès Buzyn, à rebours de toute la littérature scientifique. Associations de victimes et élus sont très remontées. Ils ne lâcheront pas, alors que la proposition de loi portant sur la création d'un fonds d'indemnisation des victimes des pesticides avait passé haut la main le test du Sénat en première lecture début février, le passage devant l'Assemblée nationale s'annonce ardu, car les derniers arbitrages, non officiels encore pour l'instant, rendus par le gouvernement, ont mis le feu aux poudres. Ils refusent de soutenir la proposition, dénonce l'association Phytovictimes, qui représente des agriculteurs malades des pesticides. C'est que le principe de ce fonds étant lui-même assez révolutionnaire dans un pays champion de l'usage des pesticides, d'ailleurs, j'ai vu ça ce matin, je fais une petite parenthèse, auditeur, auditrice, on est les champions d'Europe, c'est nous. On est les champions, c'est nous, voilà, officiellement, bravo, bravo à nous, bravo, bah, bravo, bravo à toi Ben, bravo à moi, bravo, sans qui rien n'aurait été possible, bref. Donc, excusez-moi, donc dans ce pays dont les volumes n'ont cessé d'augmenter en dépit de plusieurs plans visant à les réduire, comme quoi ça marche pas, enjeu, obtenir la réparation intégrale des préjudices de toutes les personnes exposées aux pesticides, qu'elles soient ou non issues du monde agricole, et faire peser sur les firmes qui les mettent sur le marché le financement d'une partie des coûts de l'indemnisation. En gros, vous avez fait n'importe quoi, vous avez empoisonné des gens, ça serait bien au moins de les aider un minimum financièrement. Ah non, 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 non. À ce dispositif inspiré par le fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante et du comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires, le gouvernement dit aujourd'hui préférer financer la recherche et élargir le nombre de maladies inscrites au tableau professionnel. Il se passe entre 4 et 5 ans entre la réflexion et l'inscription au tableau, soupire Paul François, le président de Phytovictimes, qui croise avec succès le fer depuis presque 10 ans avec Monsanto après une intoxication au lasso. Quant à financer des études, encore faut-il qu'elles soient suffisantes et qu'on ne les interrompe pas en cours de route. C'est aussi une question de justice sociale, insiste Bernard Jomier, le rapporteur du texte au Sénat. Avec les maladies professionnelles, on en reste à une réparation forfaitaire. Un agriculteur atteint de la maladie de Parkinson qui touche 300 euros par mois, comment vit-il ? Sans compter que cantonner les indemnisations à la seule sphère professionnelle exclut tous les riverains et les familles d'agriculteurs. L'exposition du monde rural en général exige que soit mis en place un système le plus large possible, détaille le médecin généraliste. Les récents propos de la ministre de la Santé du Haut Palais Bourbon ont scandalisé les promoteurs du fonds et les sphères de la recherche. Quand Madame Buzyn dit textuellement que « nos connaissances sont insuffisantes sur les effets de ces produits », c'est du négationnisme scientifique. Les preuves se sont accumulées, y compris en provenance de l'INSERM, qui avait publié en 2013 une méta-analyse détaillant les caractères intrinsèquement dangereux des pesticides, s'étrangle Bernard Jomier. On ne peut pas tordre ainsi le cou à la connaissance scientifique pour des raisons politiciennes, et ce contre l'avis de ses propres inspections et de toutes les communautés scientifiques. Autre argument, avant pensée par le gouvernement, l'interdiction constitutionnelle faite au Parlement d'augmenter les dépenses publiques. En faisant valoir un tel argument technique, le gouvernement n'est pas sérieux, s'agace le sénateur socialiste de Paris qui se fonde sur un rapport de trois administrations centrales pour évaluer entre 28 et 93 millions d'euros par an les besoins de financement. Sur les 6 millions collectés auprès des firmes, 4 sont affectés à la mission de pharmacovigilance de l'ANSES. La proposition de loi prévoit que le reste soit abondé par l'État et par la sécurité sociale. Voilà. On rigole.
Bah, pas trop, mais en tout cas, ce que je me dis, c'est qu'on paye en tout cas une politique qui a été faite dans les années 70 et 80 sur les pesticides et que du coup, voilà, aujourd'hui, on en paye les pots cassés.
Ah ben, un petit peu. Enfin, on en paye les pots cassés. On les paye pas tant que ça, les pots cassés. C'est bien le problème.
Ouais, mais oui, ouais, on se comprend.
On se comprend. Oui, non, mais je rebondis.
Ouais, non, c'est là où c'est aberrant et c'est fou, quoi. Mais voilà, si aujourd'hui les liens sont faits...
Oui, non mais c'est sûr, les liens sont faits et la blague, enfin, c'est quand même incroyable que tu aies une ministre qui dise on n'a pas de preuves suffisantes, c'est la plus basse excuse que tu peux trouver. C'est ah non mais il nous manque des résultats, on n'a pas, Michel il n'a pas encore rendu son rapport, tu vois, c'est quelque chose comme ça. Non, là n'est pas la question c'est s'il n'y a plus de pognon, dites-le qu'il n'y a plus de pognon, mais tu ne vas pas dire que notre pays est en ruine, attends, l'économie remonte, les start-up, tout ça, etc., tu peux pas vraiment le dire. Mais... si déjà c'est juste une question, il n'y a plus de pognon et il y a aussi une pression derrière des gros lobbies qui leur disent on n'a pas envie de payer des gens qu'on empoisonne. Mmh. Ce sont comme, je sais pas si tu l'as vu cette phrase, mercredi je parlais du rapport Oxfam, donc auditeur auditrice pour ceux qui ne l'auraient pas entendu, mercredi le rapport Oxfam qui a démontré que la France est l'un des pays où les entreprises payent le plus aux actionnaires, 67% pour les actionnaires des bénéfices, hein, donc même pas de ce qu'ils gagnent en plus, et 5% pour les salariés, justement, tu vois la division des classes, en fait, c'est un peu chez nous, mais la lutte des classes n'existe plus. Et où des personnes, alors Pierre Gattaz qui s'est énervé, de toute façon, ça ne m'étonne pas, mais où tu as des députés, notamment un député LREM qui a dit mais il faut arrêter, les actionnaires prennent de gros risques, les salariés ne sont qu'un détail de l'entreprise. Et c'est devenu l'une de mes phrases préférées, je pense, véritablement une phrase de droite que j'adore, les salariés ne sont qu'un détail de l'entreprise. Et là, tu retrouves exactement la même dans l'idée d'un lobby, les salariés qu'on empoisonne sont un détail. Ce sont des outils. Au bout d'un moment, un outil, quand il est rouillé, on le jette. On va pas le soigner. Ah bien maintenant.
Et puis de toute façon, le droit de polluer, etc. À partir du moment où tu payes.
Oui.
Hein.
Bah voilà.
Tant qu'ils payent, nous.
Tant
qu'on
fout. Non, on s'en fout. Le reste, hein, sur l'idée.
Ça, c'est aberrant, mais ouais.
On allonge la thune. On est peinard, frère. Exactement. On est peinard. Bref. Donc voilà, malheureusement, un immense recul, enfin plus un cachage de queue entre les jambes de la part du gouvernement. Mmh. Autre petite information, juste que vous allez voir qui va quand même vous faire marrer. Mercredi, on parlait aussi du délit de solidarité, le fameux délit de solidarité qui a été déposé, et c'est quand même très 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 intéressant, même si on peut imaginer que ça ne changera pas grand-chose, c'est quand même très intéressant de vraiment poser la question au Conseil constitutionnel, le Conseil des vieux croulants. Non mais attends, il y a Giscard, il y a Chirac, il y a Debré, bref. Donc, au Conseil de leur demander si le mot, en fait, dans notre magnifique, comment on appelle ça, j'ai même oublié comment on appelait ça, égalité, liberté, égalité, fraternité, c'est notre devise.
Devise, oui.
Ouais. Ah, c'est fou, hein. Bref, oui, dans l'idée, la fraternité donc n'existe pas légalement parlant, il n'y a pas de loi qui se tourne autour de ce point-là, et donc de se demander si le délit de solidarité, justement, ça ne pourrait pas aller à l'encontre de notre constitution, où il y a la fraternité dedans. Bref, le grand teneur médiatique, en fait, simplement, du délit de solidarité, c'est Cédric Herrou, l'agriculteur, bien évidemment, qui avait permis à des réfugiés de passer la frontière, de se reposer chez lui, de manger décemment et de pas avoir peur de mourir
du côté de la vallée de la Roya d'ailleurs.
Exactement. Eh bien, en ce moment, il est invité par un réalisateur au Festival de Cannes, puisqu'en fait, il y a un réalisateur de documentaire qui l'a suivi et qui l'a invité lui. Sauf que Cédric Herrou, il est pas bête. Ce qu'il a fait, c'est qu'il s'est dit, j'ai combien de places, vieux ? Oh, je peux t'en donner 3. Bon, je vais venir avec 2 réfugiés, alors. je vous lis juste le tout petit truc de France Info que j'ai vu, une petite brève, mais qui m'a fait hurler de rire. Imaginez-vous le Festival de Cannes, la Côte d'Azur, les strass, les paillettes, l'exil fiscal. Et nous, on va montrer la vraie Côte d'Azur. Le militant venant en aide aux migrants, Cédric Herrou, va assister jeudi 17 mai, donc c'était hier, à la projection du documentaire Libre en compagnie de 2 réfugiés, parce que c'est de la provoque, et j'aime bien ça. A déclaré l'agriculteur au micro de France Info. Celui qui est devenu le symbole de l'aide aux migrants fait partie des personnes suivies par le réalisateur Michel Tosca dans ce documentaire qui part à la rencontre des habitants de la vallée de la Roya et des réfugiés qui passent la frontière italienne. En montant les marches, Cédric Herrou a eu le sentiment de montrer la chasse aux noirs, le racisme, c'est tout le côté pourri de la Côte d'Azur et on emmène ça au Festival de Cannes et ça dérange beaucoup le ministère de l'Intérieur. Déranger, c'est sortir du rang, c'est un peu faire bouger les lignes. Par cette démarche, le but de Cédric Herrou n'est pas de taquiner le préfet, même si ça me fait plaisir, c'est qu'il y ait une réaction et de le faire un peu dans la déconne, a conclu celui qui est poursuivi par la justice pour délit de solidarité. Mais j'aime bien.
C'est génial.
C'est génial.
Mais non, mais ce mec, et peu importe ce qu'on en pense, en fait, à un moment, je veux dire, il a été quand même traité de passeur, etc. Or, un passeur fait ça pour des pognons, quoi, tu vois. Et lui, il est quand même extraordinaire. Il bouge les lignes. J'aime beaucoup quand t'as dit déranger.
Oui, ouais.
Et franchement, c'est exactement ça. Et peu importe vraiment ce qui va se passer pour lui, c'est que, au moins, ce gars-là, médiatiquement, il a une tribune. Mmh. Aujourd'hui, à Cannes, il prend vraiment de l'ampleur, etc. Et quoi qu'il arrive, ça fait bouger les lignes, ça fait du bien, quoi.
Mais oui.
J'adore.
C'est juste ça. Moi, en fait, j'adore quelqu'un qui utilise les on va dire les institutions de cette manière-là. Tu vois, de dire ça fait quoi de monter les marches, Cédric Herrou, il fait. Oh bah c'est emmerde le préfet, moi j'aime bien. Hein. Ça c'est vraiment genre comme ça, ouais, c'est genre il y a pas le cachet en disant je suis là entre guillemets, ce qui est vrai, tu vois, pour soutenir la cause militante, blablabla, qui serait un discours tout à fait classique et justifié. En plus bah il y a la petite touche d'humour. Je fais quelque chose. Ouais.
C'est génial et en plus de ça, je trouve qu'il utilise son pouvoir médiatique à bon escient.
Voilà.
C'est-à-dire que vraiment à un moment il dit non mais les gars il se passe vraiment quelque chose de grave. Et du coup ça fait plaisir.
Lui qui a pas du tout choisi les feux de la rampe, c'est les médias qui l'ont choisi comme symbole entre guillemets, mérité, là n'est pas la question, mais qui n'est pas quelqu'un qui s'attendait à avoir ce genre de choses et à avoir ce genre de tribune. Et comment l'utiliser le plus possible de manière intelligente, ça peut être une manière comme ça. Donc ça j'ai bien aimé, ça m'a fait plaisir. Je me suis dit qu'on allait mettre ça parce qu'au bout d'un moment, il faut se faire plaisir. Bref, avant d'écouter le témoignage de Brice et Martin du collectif FS, je vous propose une petite pause musicale, auditeurs et auditrices, avec un artiste qui sera au Tinals, puisque vous savez que le Tinals, c'est dans 2 semaines. Je rêve de l'avoir en interview. Est-ce que ce sera fait ? Est-ce que pas ? J'en sais rien, on verra bien. Mais c'est Ty Segall, du coup, qui vient avec son morceau My Lady on Fire. Et on revient juste après. À tout de suite. You say you want to cry. But your tears are dry. Well, I was that way. There's nothing left to say. Nothing left to say.
on fire.
Ty Segall avec le morceau My Lady's on Fire qui vient de l'album de, enfin, de son album de cette année, mais sachant qu'il sort un album tous les ans, voilà, il s'appelle Freedom's Goblin, qui est excellent auditeur auditrice, qui tourne depuis janvier sur cette antenne, et avec un peu de chance, il acceptera la demande d'interview dans 2 semaines. Bref, on va parler d'un truc, d'une situation assez spéciale, voilà, on va dire comme c'est une situation assez spéciale, peut-être auditeur auditrice, quand je vous ai dit situation au Festival d'Olt, ça vous a peut-être rappelé quelque chose, mais plus simplement, je vais laisser Brice et Martin du collectif FS en parler parce qu'ils le feront beaucoup mieux que moi. On est avec Brice et Martin du collectif FS. Salut les gars.
Salut.
Salut.
Merci beaucoup d'être là aujourd'hui. Du coup, alors pour parler d'une situation un petit peu spéciale, on va faire un petit retour sur Festival d'Olt, auditeur auditrice, mais surtout d'un événement qui s'est déroulé dans la nuit de samedi à dimanche. Si vous étiez à Olt, vous savez qu'il est tombé pas mal de neige, mais c'est surtout ce qui s'est passé lors de cette, tombée de neige en fait simplement. Est-ce que les gars, vous pouvez juste nous faire un petit résumé pour vous de ce qui s'est déroulé en fait?
Ben alors nous avec le collectif FS déjà on s'occupait du camping sur tout le long du festival, à faire des entre guillemets after, à servir à boire, à manger. Donc on était présents toute la nuit du samedi au dimanche. Donc la nuit a commencé par des pluies torrentielles sur le site du festival, et à partir d'une heure du matin nous on a réouvert le camping pour accueillir les festivaliers qui rentraient dormir, qui voulaient se réchauffer un petit peu.
Et la neige est arrivée. Et du coup, ouais, vers 2h du matin, la neige est arrivée. Donc là, avec le Rude Boy Crew et les organisateurs du festival, on a clairement décidé qu'il fallait évacuer les tentes parce qu'il y avait clairement un risque d'hypothermie ou d'étouffement parce que les tentes s'écroulaient sous le poids de la neige. Mmh. Donc on a fait évacuer le camping et c'est là que les choses se sont un peu plus compliquées parce que la gendarmerie est entrée en jeu.
Alors avant qu'on passe justement là-dessus, on est bien d'accord sur la situation. Le camping, enfin les gens qui dormaient au camping, comme tu l'as dit, il y avait risque d'hypothermie, il y avait risque de tente qui peut s'effondrer sous le poids de la neige. Donc on avait des personnes dont le Root Boy Crew, le collectif FS, est plus ou moins, enfin c'est la responsabilité de les mettre à l'abri, qui étaient un petit peu qui pouvaient être en danger, quoi.
Bah, clairement, oui.
Clairement, voilà. Ouais. Et du coup
En fait, les gens étaient vraiment pas équipés pour la neige. Un peu ivre, donc ça devenait quand même dangereux. Donc c'est de là qu'est parti le fait qu'on évacue. Donc le Root Boy avait mis à disposition la salle des fêtes du Blémar, qui est chauffée. Et donc nous, on s'occupait en attendant de secouer les tentes, de faire évacuer les gens de leurs tentes, parce que c'était assez dangereux. On les rapatriait vers la caravane, et de là étaient censées partir des navettes conduites par des gens du Root Boy Crew pour aller à la salle des fêtes. Sauf que ça a commencé comme ça, avec quelques navettes, on a commencé à évacuer les gens, et au bout d'un moment, donc la gendarmerie de on ne sait pas où exactement, s'est mise à faire des contrôles alcoolémie et stupéfiants à la sortie du festival, donc entre le camping et la salle des fêtes. Mmh. Et comme tout le monde était un petit peu alcoolisé, etc., on a dû arrêter les navettes, parce qu'on ne pouvait pas se permettre de perdre des permis, voilà.
Donc on s'est retrouvé dans une situation en fait, où concrètement la route qui menait à l'endroit au gymnase, hein, c'est bien ça ?
Ouais, gymnase.
Qui menait au gymnase était surveillée par des personnes de la gendarmerie. Donc impossible en fait simplement de mener ces personnes qui étaient en danger, qui pouvaient possiblement être en danger au camping, impossible de les amener au gymnase.
Voilà, impossible.
Bah, disons qu'ils ont fait ralentir la situation d'urgence. En faisant des contrôles alors qu'ils auraient pu participer avec des navettes, puisqu'ils ont constaté que beaucoup de gens étaient alcoolisés, et mettre des navettes venant d'eux qui ne sont pas alcoolisés et aider à faire en sorte que le déplacement des gens du camping à la salle des fêtes se fasse plus rapidement et plus efficacement. Et au lieu de ça, ils ont empêché que nos navettes tournent. Et ça a tout ralenti, il n'y a aucune aide de leur part, alors que c'était clairement une situation d'urgence.
Par contre, je voulais juste dire que pour le coup, les pompiers, eux, étaient vraiment là toute la nuit avec nous. Ils ont assuré la protection des gens, ils ont assuré l'évacuation un petit peu, ils nous ont aidés. Et donc eux, ils ont fait un super taf.
Ouais.
Voilà.
Ouais.
Bravo les pompiers.
On a raison de le préciser pour le coup. Vous avez eu, vous savez, vous connaissez quelqu'un qui a du coup discuté en fait avec ces gendarmes qui étaient là quand ils ont arrêté les navettes, qui leur a expliqué la situation ou pas?
Ouais, il y a Seb qui fait partie de la direction du Root Boy là.
Sébastien Kuhn,
ouais, ouais. Qui était là il y a pas très longtemps. Et donc voilà, en fait, discussion n'a mené à rien parce que la police, enfin la gendarmerie était clairement là pour faire du chiffre pour arrêter des gens. Donc il y a plusieurs personnes qu'ils ont arrêtées, qu'ils ont amenées à la gendarmerie à Mende, je crois. Tout ça, voilà, pendant que c'était la merde au camping.
Finalement, l'évacuation a pu se faire au final ou pas du tout?
Oui, entièrement. Grand coup de d'efforts de notre part, un gros effort collectif, mais ça a été long et fatigant.
Il y a beaucoup de gens qui sont allés du coup à pied du camping jusqu'au gymnase, qui sont allés à pied. On pouvait pas faire autrement, quoi.
Ouais. Voilà. Donc en fait, si je résume un tout petit peu la situation, vous me dites si j'ai bon. Dans une situation en fait simplement où des festivaliers, des fois ça implique assez logiquement un petit peu alcoolisé ou un petit peu autre chose, étaient dans une situation compliquée, une situation où eux-mêmes pouvaient se retrouver en danger, où pouvait y avoir des conséquences, se sont retrouvés en fait dans l'incapacité d'aller là où ils devaient se réfugier du froid et se réfugier de la neige, à cause des gendarmes qui ralentissaient tout le processus au lieu de donner un coup de main à cette population.
Voilà, c'est surtout ça pour moi, c'est qu'ils auraient pu aider, quoi. Mmh. Ce qu'on disait tout à l'heure, un de leurs premières missions, c'est censé être la prévention au risque. Donc là, c'était pas du tout le cas. Ils ont même fait que ça devienne plus difficile, quoi.
Que le processus devienne plus compliqué.
Mmh, exactement.
Parce qu'on le sait que ça fait partie du jeu, entre guillemets. S'il y a un festival, ils vont être dans le coin. C'est logique, on le sait, ça fait partie un petit peu du jeu. Je pense que tout le monde en est clairement conscient. En revanche, qu'ils n'aident pas dans une situation de détresse, où là, justement, leur mission prioritaire, c'est quand même d'aider la population, c'est peut-être ça qui est un petit peu plus gênant.
Oui, c'est ce qui pêche. Ils auraient pu revoir un peu leur ordre de mission et qu'ils soient là pour faire des contrôles. À la limite, c'est le jeu quand on est en festival, on le sait tous. Mais des conditions climatiques particulières à cette époque sont apparues. Une situation d'urgence en découle. Et leur job, c'est de canaliser tout ça et d'aider à ce que tout se passe bien plutôt que de réprimer. Quoi.
Finalement, ils ont rendu les choses plus dangereuses qu'elles n'étaient déjà. Quoi.
Il y a eu une réaction quelconque de la part du festival, du Rude Boy Crew, de même du FS.
Bon, nous, on était un peu énervés là, sur le coup. Je crois que Sébastien Kuhn a discuté avec une des gendarmeries mises en cause pour leur dire ce qu'il en pensait. Après, bon, ça ne va pas plus loin, de toute manière. C'est juste un coup de gueule, quoi.
Tout à fait. Mais comme tu l'as dit, Martin, justement, ne pas du tout revoir les ordres de mission. Les ordres étaient faits du chiffre, choper des gens, mais même dans une situation délicate et surtout imprévue, il n'y a pas eu de changement d'ordre de mission. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter, tous les deux, sur cette situation, en général ?
En espérant qu'à l'avenir, leur sens civique soit un peu plus développé.
Ouais, peut-être... Je ne sais pas qui c'est qui était en charge pour la gendarmerie, mais peut-être à un moment donné, essayer de passer outre les ordres pour aider des gens. Quoi. Enfin, je ne sais pas dans quelle mesure ils peuvent faire ça, s'ils seraient fait blâmer ou quoi, mais en tout cas, nous, on l'aurait applaudi peut-être.
Merci beaucoup en tout cas, les gars, pour ce petit résumé.
Merci à toi, Camille.
Merci.
Voilà. Alors, on va reprendre les choses un tout petit peu dans l'ordre, auditeurs, auditrices. Comme vous l'avez entendu, on l'a répété plusieurs fois, mais en effet, il y avait des personnes en situation de danger, qui soient, on va dire, dans un état second d'une manière ou d'une autre. Là n'est plus le problème. C'est pas quelque chose qu'on peut leur reprocher, puisque n'importe qui en situation de danger est en situation de danger. Voilà. Je suis désolé, tu peux pas faire plus simple, puisque là, ce qui est terrible, en fait, c'est qu'on va. Ce qu'on vient de faire là depuis 8 minutes avec ce petit entretien et ce qu'on va dire maintenant, c'est répéter des bases, en fait, concrètement. C'est répéter des bases avec lesquelles, normalement, tout le monde est d'accord, sur le principe. T'as quelqu'un qui est dans une situation compliquée, qui a besoin d'aide, tu l'aides. Notamment quand tu fais partie, en effet, de services publics dont la mission prioritaire et principale, sur le principe, c'est de venir en aide aux citoyens que tu es censé protéger de ta commune d'une manière ou d'une autre. Le fait qu'il y ait des contrôles à la fin d'un festival n'est pas surprenant. C'est comme ça, c'est entre guillemets, c'est les règles implicites du truc, c'est le jeu, tout le monde est au courant, il n'y a pas de problème. En revanche, se placer sur la route, là où il y a des gens qui viennent pour chercher, pour aller se mettre à l'abri de quelque chose qui peut être dangereux, parce qu'on parle pas de quelqu'un qui s'est foulé la jambe. On parle de neige, on parle d'hypothermie, on parle de possible effondrement, quelqu'un qui peut mourir sous une tente ou un truc comme ça. De se mettre pile sur la route qui leur permet de rejoindre leur abri, de ralentir tout le processus simplement pour faire du chiffre, ça pose pour moi un immense problème éthique. Véritablement. Ça pose une vraie question philosophique qui est quelle est la priorité des gendarmes ? Le problème, c'est que normalement, quand ils ont pas pris serment, en fait, lors de la prise de ce poste, c'est aider les gens. Là, la priorité n'était clairement pas ça. La priorité était faites du chiffre, remplissez les machins, viens, on va choper des gens, ça va être bien. C'est un problème.
La chaîne de solidarité qui s'est mise en place à Holt est quand même absolument géniale. Là, le truc, c'est qu'en plus de ça, on parle même pas de 10 ou 15 kilomètres entre deux zones. Tu vois, pour mettre les gens à l'abri. S'il y avait eu effectivement 15, 20, 30 km, admettons, sous la neige, etc., bourré ou défoncé, là, ça aurait pu effectivement poser problème. D'où le truc de faire effectivement des tests d'alcoolémie ou des tests salivaires. Là, on parle de quelques centaines de mètres, même pas. Donc là, on est quand même clairement dans quelque chose qui est absolument aberrant. Et si jamais les flics sont capables de se dire « on va contrôler des gens sur cette zone-là de 100 mètres, à la place de les aider pour faire accélérer le processus, on est quand même dans quelque chose d'absolument aberrant. Je te disais que j'avais des frissons en écoutant cette interview. Moi, j'en ai entendu parler puisque j'ai vu les copains d'Hardy Lézard lundi. Je veux dire, mais tout le monde était éberlué et ça ne réconcilie pas la population avec aujourd'hui ce qu'est la répression qu'on vit ici dans le coin depuis maintenant quasi 6 mois. Hein. Je veux dire, c'est absolument aberrant.
Ce que j'aime bien, t'as abordé un point que j'aime beaucoup et j'adore la conclusion de Brice. Qui est que je ne sais pas s'ils pouvaient nous aider, je ne sais pas s'ils pouvaient faire ça, s'ils se seraient fait blâmer après, mais nous, on les aurait applaudis. J'adore cette conclusion, parce qu'elle est clairement non pas dans une opposition, de se dire de toute façon ils font chier ces gens-là, bien au contraire, elle est dans l'idée de « on aurait pu faire quelque chose ensemble ». Bien évidemment, ça serait revenu après au contrôle, au machin, au bidule, parce que c'est aussi leur rôle. Ok, d'accord. Mais... à ce moment-là, il y aurait pu avoir une solidarité entre eux et nous. Et l'un des gros problèmes actuellement, auditeurs et auditrices, on l'a vu avec ce qui s'est passé justement, c'était il y a un petit mois, je crois maintenant, quand la manifestation à Florac s'est mise en place devant justement la gendarmerie, c'est qu'il y a un fossé gigantesque entre représentants de l'ordre et personnes en uniforme et population. Ce qui est excessivement dommage, parce que tu n'arrives à rien quand il y a un fossé qui est créé par l'un et par l'autre. Hein, je veux dire, personne n'est tout noir et tout blanc, c'est pas la question. Mais il y a un immense fossé qui fait qu'il n'y a plus de dialogue. Et quand il n'y a plus de dialogue, aucune situation ne peut avancer. Là, il y avait une possibilité justement de dire merci les gars de nous avoir aidés, vraiment. Eh ben, écoutez, faites attention, j'en sais rien, n'importe quoi. Il y avait cette possibilité-là. C'est pour ça que j'adore cette conclusion de dire nous, on les aurait applaudis. Même si c'était fait engueuler peut-être par leur hiérarchie, nous, on les aurait applaudis. Ben, ça n'a pas été le cas. Et ça, c'est un peu dommage. Bref, voilà, auditeurs, auditrices, j'espère que ça vous a donné du grain à moudre vous-même pour votre tronche. Avant de passer à l'interview de Louis Bélanger, on va parler cinéma après. Je vous propose alors un petit gars que j'aime beaucoup qui s'appelle Kyo Itachi. C'est un beatmaker japonais. À savoir qu'il a collaboré énormément avec l'une des grandes plumes françaises du rap de ces dernières années, Lucio Bukowski, qui est un rappeur que j'aime beaucoup pour ses textes. Il a collaboré sur son album le plus connu, moi c'est comme ça que j'ai connu Kyo Itachi. Et il vient de sortir un album en duo avec pas mal de rappeurs, en fait, à chaque fois. L'album s'appelle Akira, donc voilà, pour les fans, ça leur rappellera certaines choses, puisque beaucoup est pris justement du film Akira. Je vous laisse écouter le morceau qui s'appelle Zero Point Energy et qui est très très bien. À tout de suite.
The drugs we were using to keep him under control are wearing off. He won't be able to control his rapidly increasing power. He's in a very unstable condition.
You've got to go back to the laboratory for treatment. Your life is in danger.
You mean I should go back to that nursery and behave myself? Ah! You want to use chemicals to turn me into a humanoid like those other kids? Ah!
Grip lyrics, hyperdimensional physics, I spit physics, hyperdimensional lyrics, I spit lyrics, hyperdimensional physics, I spit physics, hyperdimensional lyrics, I script lyrics, hyperdimensional physics, whirlpools of ether, transfer info between dimensions. This keeps the reality of this world animated. Vortex atoms, all pervasive, infinitely. Human consciousness is dependent on higher dimensional realities. No origin of time, inertia, gravity, zero point. Energy for every birth, eternity. Wax and wane, inhale, contract, inhale, exhale. Spit out a planet with my raps. Non-linear, thermodynamics. Seems uncontrollable cause my output is galactic. Watch me unfold like the MEG, emotional electromagnetic generator. Superconductivity, mastermind you bitch MCs and fake gangsters. Your minuscule thoughts get swallowed by many of my mini black holes. More conventional methods would be to crack your skull. Zero point energy. Third dimensional reality is just a subset of a fourth dimensional reality you can't see yet. Unfold geometrically, it all makes sense. If you're not following along, get the fuck off my spaceship. The connection between mathematics and music. Number one, music is geometry. Geometry is music. A geometrical collection of harmonic tones and frequencies. Take it back way before Pythagoras. Break it down like math, equations, abrasions, till you don't persist. Sunbathe like raisins, fly like talons.
misinterpreted like pagans. You move, I move adjacent. In front of your face, kid, prostrate to the great. You fall like shell casings, my cannon spit. Powerful styles like dragon fist, immaculate like Zodiacus. In my left palm, I hold a jade amulet. In my right, hematite, I'm here to lock this. The skeleton key, eat them seeds with chopsticks. Speak Gnostics, take it back to the Xanarin Sea. Burn a L and get nostalgic. Yeah. 0 point energy.
Kyo Itachi avec le morceau Zero Point Energy qui vient de l'album Akira, que j'ai écouté juste hier en le téléchargeant un petit peu au pif, même si je connaissais de nom, et qui est déjà devenu, à mon avis, l'un de mes albums rap préférés de 2018, parce qu'il est vraiment excellent. Comme je vous le disais, auditeurs et auditrices, on a eu l'occasion lors du 48 images secondes de rencontrer pas mal de réalisateurs. Et il y a notamment un film que j'avais pu voir du coup avant de préparer l'interview qui s'appelle Gasbar Blues. Gasbar Blues, c'est un film réalisé par Louis Béranger. Bélanger, avec un L, Louis Bélanger, parce que vous allez voir au début de l'interview, je me suis trompé déjà. Et qui est un film que j'ai absolument adoré. Apparemment, c'est un grand classique du cinéma. C'est devenu un grand classique du cinéma québécois, puisqu'il a quelques années déjà, mais qui est vraiment l'histoire, en fait, simplement d'une station-service avant que tout devienne automatisé et d'un père qui a cette station-service et qui a trois fils qui s'en occupent avec lui. Et surtout, de tout ce qui gravite autour d'eux, c'est-à-dire toute la bande de copains un peu illettrés, un petit peu bêtes, mais qui ont trouvé, en fait, simplement un refuge là et qui viennent tous les jours parce qu'ils ne travaillent pas non plus. Et la vie, en fait, la forme sociale qui s'est créée autour de ça, en opposition avec justement le fait que ça marche plus vraiment, que maintenant tout est automatisé, qu'il y a des gens de la grande compagnie qui viennent emmerder le boss parce que il la tient pas comme il faut, ou des choses comme ça. C'est un film magnifique, auditeur, auditrice, qui m'a vraiment énormément touché, qui est très beau. C'est ce qu'on appelle des tranches de vie. Moi, c'est un style de cinéma que j'adore. Bref, voilà un petit peu le résumé. Je vous conseille énormément de le trouver, il doit sûrement être à la Nouvelle Dimension, et de le regarder. Mais surtout, je vous conseille d'écouter là tout de suite l'interview du réalisateur Louis Bélanger, du coup, qui était avec nous il y a de ça un peu petit mois à peu près.
J'ai quelques questions à vous poser.
Bien, maintenant je pose une question.
L'interview des Bartas.
Il paraît qu'ils vont mettre des grosses ballons d'hystérine. Quand tu vas fesser dans quelque chose, ça va se gonfler d'un chat. Hein? Je me demande qu'est-ce que ça va faire si, mettons, que tu fumes une cigarette. Ça va te faire péter la ballon ou bien si ça va te brûler la face? Ça, ils disent pas ça.
Calvet! L'air sort bien trop vite pour les bicycles à pédales.
Je l'avais dit aussi de mettre un dessin pour avertir le monde. Hein?
Allez! On m'achète une trip de bicycle. Tu passes la journée de même, hein?
Je vais me tourner maintenant vers Louis Béranger pour parler du film Gasbar Blues. Et j'ai réussi. Merci.
Vous avez réussi le titre, mais pas mon nom de famille.
Mince, qu'est-ce que j'ai dit?
Béranger.
Et c'est pas du tout ça, hein?
Non, c'est Bélanger.
Bélanger.
Mais vous avez bien réussi le titre.
Ouais, ça fait que 50%, du coup, je vais me faire engueuler.
Excuse-moi, je
vais me faire engueuler. Alors, Gasbar Blues, qui date de 2003, si je dis pas de bêtises.
Ouais, exactement.
Alors, qui est. Moi, ce que je veux dire, je pense que les cahiers du cinéma ont sûrement une autre manière de le dire, mais moi, j'appelle ça des films tranches de vie. Des films où on voit énormément de personnages et on les voit dans des moments pas spécifiques dans leur vie, justement. Ce que j'aimerais savoir avant toute chose, peut-être pour donner un petit peu un synopsis aux auditeurs, aux auditrices, tout tourne autour d'une station essence dans la fin des années 80, si je ne dis pas
exactement,
de bêtises, 89. Tout tourne autour d'une station essence, du père qui la tient depuis 15 ans, de ses trois fils qui sont là, puis qui sont moins là à des moments, et tous les personnages qui gravitent autour. J'aimerais vraiment savoir comment, en fait, tous ces personnages, puisque c'est un film pour moi qui sont des personnages, il y a un casting absolument incroyable. Ces personnages-là, comment vous les avez écrits? C'est des connaissances? C'est des gens que vous aviez quand vous étiez petit, peut-être? Des portraits que vous aviez, que vous avez refaits? Ou c'était complètement des personnages inventés? Qui c'est tous ces gens?
C'est la même affaire que ce qu'André Lynn vient de dire.
C'est un film de famille.
C'est un grand mensonge.
On a le thème de l'émission, je suis content.
Ouais, non, mais c'est un... Moi, je dis toujours que c'est un grand mensonge basé sur beaucoup de vérités. Gaspard, c'est ça. Mon père avait une station-service. En fait, c'est un film autobiographique. C'est une psychanalyse, ce film-là. Mon père avait une station-service. Moi et mes frères, on travaillait... On était obligés de travailler là-bas. Donc, moi, je racontais... après avoir fait post-mortem, je me demandais un peu mon premier long-métrage. Je me demandais ça allait être quoi, mon prochain film. Puis je faisais rigoler les amis à la coop, Robert, Bernard. Je faisais rigoler le monde en leur racontant des bouts de vie à la station-service. Et c'est Bernard Raymond, puis un peu Robert qui m'a dit... Tu devrais faire un film avec ça. Puis moi, j'ai dit, non, c'est ma vie, c'est pas vraiment intéressant. Mais j'ai laissé décanter, puis j'ai rempli. J'ai couché sur papier mes souvenirs. Puis après ça, je me suis dit, bon, ben, il faudrait ramener tout ça sur un été charnière. C'est la chronique d'un été. J'ai décidé de planter la... Parce qu'en réalité, moi, ces années-là, ça se passait plutôt dans les années 70. J'ai décidé de ramener toute cette action-là en 1989, pendant la chute du mur de Berlin, parce que pour moi, c'est le jour 1 de la mondialisation. Quand le mur de Berlin est tombé, c'était la fin d'une façon de comprendre et d'expliquer le monde. On ne savait pas à l'époque que ça allait être le jour 1 de la mondialisation, mais comme je fais le film en 2003... Je le tourne en 2002, je suis capable de poser ce regard-là. Donc, si on revient au personnage, tous ces gens-là ont existé. Monsieur Savard, mon père, tous les clients. C'est sûr que j'ai concentré des fois certains deux personnages en un seul, mais tout ça, c'est ma jeunesse.
Monsieur Savard, c'est mon préféré, personnellement, je tenais à le dire.
C'est un de mes grands amis dans la vie.
Et... Justement, que ce soit ces personnes qui ont existé et des fois d'en créer un seul avec deux, mais surtout de devoir trouver des acteurs pour les incarner, comment ça s'est passé? Parce que devait y avoir une vision peut-être un petit peu difficile entre le personnage créé, la vérité, ce que vous vouliez qu'il représente aussi, comment vous vouliez qu'il le joue. Comment ça s'est passé pour trouver? Parce qu'il y a une dizaine de personnages. Hein.
C'est très difficile. Il y a deux personnes bien, bien importantes dans la création de ce film-là. C'est Emmanuel Beaugrand-Champagne puis André Lynn, Beauparlant, pour recréer tout l'univers visuel, toute l'atmosphère de ça, autant dans l'environnement visuel que dans l'environnement humain. Donc, j'ai fait ce travail-là avec des interlocuteurs. J'avais une idée. Au début, je me suis dit, c'est pas une bonne idée d'essayer de chercher dans les comédiens des ressemblances physiques avec ceux qui ont été dans la vraie vie. Mais en discutant avec Emmanuel Beaugrand-Champagne, donc ma directrice de casting, je me suis rendu compte que je n'étais pas capable de faire autrement et qu'il fallait passer par là pour le casting. Que les deux fils ressemblent étrangement. Danny Gilmore, qui fait l'harmoniciste, c'est une copie conforme de mon frère Guy. Il bouge pareil, il cherche à charmer... Le gars qui fait Sébastien Delorme ressemble à mon grand frère Claude. Le boss, Serge Thériault, une fois qu'il a les cheveux blancs, c'est le portrait de mon père. Monsieur Savard, Gilles Renaud, ressemble à Monsieur Bédard. J'ai été obligé de passer par là. Après ça, pour la recherche des lieux de tournage, on s'est promené partout à travers le Québec avec André Lynn. Pour finalement, André Lynn, elle m'a dit « Tu y arriveras pas. On n'est jamais heureux, puis ce que tu as connu, Louis... » Tu nous parles de quelque chose qui existait et tu dis dans ton film que ça a disparu. Et c'est effectivement disparu. Il n'y en avait plus des stations-service de ce... Donc, on l'a construit de toutes pièces et elle l'a construit en me faisant parler, en me faisant... Même je pense que mon frère Guy a fait des dessins à un moment
donné. Ta mère, elle me dit, ben là, ça ne peut pas être là, ça, là.
Oui. Donc, on a construit ça selon nos souvenirs. J'étais... Donc, incapable de m'éloigner trop tôt de ce qui avait été, mais ça a tourné à mon avantage. Quand je suis arrivé sur le plateau de tournage, j'avais une précision terrible pour dire la scène, voici comment elle va se passer. Tu pars de là, tu t'assois ici, puis tu t'envoles là, puis sur tel mot, tu... Et l'autre chose aussi, c'est que j'ai passé 4 ans à écrire ce scénario-là, donc le papier musique était le papier, je veux dire, la musicalité des dialogues, les dialogues, c'était très précis. Il n'y a quasiment rien qui a changé au montage. Entre le, si on lit le scénario et qu'on regarde le montage, il n'y a pas beaucoup de différence. Il n'y a pas de scène qui change de place. Ou de, même, il n'y a pas d'improvisation. Les dialogues sont là, il n'y a pas d'improvisation dans ce film-là. C'est assez bizarre. C'est pas le même dans tous les films, mais celui-là était tellement autobiographique que c'était difficile d'en déroger.
Film autobiographique avec justement des personnages aux ressemblances physiques, comme vous le disiez. Un plateau de tournage fait pour ressembler à ce que c'était. Est-ce que pendant le tournage, il y avait des moments où la réalité se mélangeait un petit peu aux souvenirs? Comment ça se passait?
Ben, il y a surtout eu des moments très bizarres quand André Lynn a fini le décor. D'une vieille station-service des années 80. Le lendemain, il y avait des automobiles qui attendaient à l'îlot de service.
Ah.
Puis on leur disait, mais on ne sert pas d'essence ici, c'est un décor de cinéma. Mais les gens voyaient les prix affichés, les prix des années 80. Donc, ils faisaient la file d'attente. Mais les gens disaient, ouais, mais nous, on reste ici parce que l'essence est vraiment pas chère. C'est dire. Puis là, nous, on était là, André-Lyne puis moi, on se demandait, est-ce que c'est crédible? Puis quand on a vu que les gens venaient vraiment pour acheter, là, on s'est dit, OK, notre décor, il fonctionne à fond la caisse. Là, on peut y aller. Mais oui, il y a eu des... C'est un tournage béni pour moi, d'une grande facilité. Parce qu'après ça, on s'est lancé dans d'autres projets beaucoup plus difficiles au niveau de la réalisation, au niveau de la construction. Puis au niveau du... Mais là, on parle d'un moment de bonheur qui arrive dans une carrière d'un réalisateur où les gens, par exemple, M. Savard, il venait faire un tour sur le comédien Gilles Renaud venait faire un tour sur le plateau de tournage les journées où il ne tournait pas parce qu'il voulait venir prendre un café avec la gang. Il arrivait à l'avance sa dernière scène. Quand il joue sa dernière scène, Gilles, il pleure. Et c'est la scène de fermeture de la station-service. Puis là, tout le monde me dit, « Ah, c'est génial, l'acteur a pleuré. » Puis là, moi, je dis, « Ouais, ça... » on en fait une autre. Il faut en faire une autre parce que Gilles Renaud, le comédien, pleure parce que c'est son dernier plan, puis le projet fini. Mais M. Savard n'aurait jamais pleuré. Et il va être aussi touché, mais il faut qu'il retienne ses larmes. Mais on avait un rapport... Et c'est l'époque encore où... Quand on finissait la journée de tournage, on regardait les roches ensemble le soir en prenant une bière puis en discutant. C'était une façon de faire du cinéma un peu différente d'aujourd'hui.
Mais vous parlez justement de ce rapport de tous ensemble, puisque le film décrit une famille plus loin que le père et ses trois fils.
Oui.
Tous les gens qui viennent tous les jours, etc. Chacun, d'ailleurs, ont des rôles très prédéfinis dans la famille. Et... ça se sent, en fait, au visionnage du film. On a l'impression d'être à cette époque, d'être dans cette famille. Donc, chaque comédien, il y a dû avoir cette cellule familiale qui s'est créée entre les comédiens. Elle paraît profondément réelle.
Ouais, j'ai pris aussi des gens... Je choisis pas mes comédiens en fonction uniquement de leur performance. Je choisis les comédiens... parce que le rôle d'un réalisateur, c'est pas uniquement de mettre en scène... Mais c'est aussi la gestion d'ego, la gestion du travail d'équipe. On parle pas souvent de ça, mais le metteur en scène, c'est aussi de gérer l'énergie des comédiens. Donc, quand je choisis mes acteurs, je choisis des gens qui vont bien s'entendre, qui vont avoir du plaisir. Parce que je dis tout le temps que faire un film, c'est très difficile, c'est un moment rare, et il faut que ça se passe dans le bonheur. Parce que si il y a des antagonismes sur un plateau de tournage, c'est pas plaisant. Et le travail s'en ressent. Et le film s'en ressent. Donc, j'ai choisi des gens avec qui je savais qu'on allait s'amuser, qui allaient bien s'entendre, qui allaient comprendre leur fonction dans le récit. Et moi aussi, je les ai tous connus, ces messieurs-là. Et je dis souvent que j'ai appris plus à la station-service de mon père sur l'homme, sur l'hommerie, sur l'homme, que sur les bancs d'école. J'ai appris plus avec ces analphabètes fonctionnels-là que de certains de mes professeurs. J'ai appris les rapports entre les hommes, les rapports du monde le monde ouvrier. Et il y a bien des gens qui lisaient mal mon scénario au début puis qui pensaient que j'avais un regard hautain sur ces bonhommes-là qui sont finalement ils sont en marge de la société, ils travaillent pas, c'est des gens qui ont pas beaucoup d'emplois, qui passent leur journée à rien faire puis à discuter. Mais moi, j'ai appris de ces bonhommes-là, puis je les aime d'amour. J'ai appris avec eux autres, je les ai respectés. Et je disais toujours, ce film-là, il y avait un sous-titre qui était ce qui s'appelait « Ode au monde ordinaire ». Et ça, je pense que je voulais faire ça. Puis je pense que ça, ça paraît. Il y a une chanson des Rolling Stones qui s'appelle « Salt of the Earth ». Let's raise our drink to the hard-working people. Puis ça, c'était une affaire qui m'animait à l'écriture du scénario.
Notamment dans le tournage, puisqu'on on voit, vous parliez que vous l'avez placé justement au moment de la chute de Berlin, la chute du mur de Berlin, pardon, parce que la chute de Berlin en elle-même, pas des masses, mais où justement l'un des personnages, Régent,
oui.
Ça. Régent part là-bas, voit le monde comme le monde est en train de changer, puis
oui.
Par plein d'idéaux plein la tête, puis au fur et à mesure des lettres et des photos commence à les perdre les uns après les autres, commence à dire lui-même j'aimerais bien que les choses ne bougent pas,
oui.
Et on ne voit pas le monde évoluer dans ce film, on voit justement un endroit et on entend le monde évoluer autour,
oui.
Mais on ne
oui.
Le voit pas en ce moment même.
Oui.
D'accord, c'est pas vraiment une question ce que je viens de poser.
Non, mais c'est tout à fait une remarque juste. Parce que en réalité, c'est moi qui est allé en 89, j'étais colocataire avec Robert Morin, et à la télé, on voit les premières images, le mur, il y a une brèche dans le mur, puis le mur est ouvert, et j'étais avec ma copine, puis je dis ben on prend l'avion, puis on est là demain, et donc j'ai fait des photos, un peu, c'était l'idée un peu, c'était Chris Marker l'a jeté, des photos avec, j'avais emprunté un Walkman Pro, on ramassait le son en direct, puis je me disais, je vais faire un petit court-métrage. Et ces images-là, ces photos-là ont dormi pendant 15 ans dans mon tiroir. Et j'avais, et c'est peut-être à la troisième version d'écriture que je me suis dit, ah si je faisais une métaphore entre l'effondrement, la disparition des stations-service et la disparition de cette façon-là, de la chute du mur et tout ça. Donc, j'ai réutilisé mes photos et j'ai intégré ça dans le film. Donc, souvent, l'écriture d'un film, c'est plusieurs versions. La première version, c'était l'histoire du jeune homme. C'était pas l'histoire de ça prend plusieurs moutures. Je m'en rappelle, j'avais fait lire mon scénario à Robert qui m'avait dit « C'est bon ton affaire, mais c'est ennuyant que ça soit le petit gars ». J'étais fâché contre lui. Je m'étais dit, il comprend rien, mais j'avais laissé décanter, puis j'avais écrit une autre version en disant, finalement, c'est le père qui doit être le personnage principal.
J'adore l'accent belge. Excuse-moi, je...
Oh, le gros incident diplomatique. Oh là 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 là. Voilà, voilà, voilà. On avait des bonnes relations jusque-là, c'est niqué. C'est foutu. Une phrase, il a fallu. Bref, Louis Bélanger, du coup, avec le film Gaz Bar Blues. Si vous avez l'occasion de le voir, auditeur, auditrice, je ne saurais que trop vous le recommander. Avec sous-titres, par contre, hein, c'est toujours malheureusement le problème, c'est que j'ai essayé son sous-titre, moi j'y arrive pas, personnellement. Mais voilà, Gaz Bar Blues, essayez de le voir, trouvez-le, parce qu'il est quand même assez génial. Ben,
oui,
le monde marche-t-il sur la tête?
Tu m'étonnes, plus que jamais.
Le monde marche sur la tête.
Le monde marche sur la tête.
Le monde marche sur la tête. Mais nous, on retombe toujours sur nos pattes et bim!
Cahuzac, président! Cahuzac, président! Cahuzac, président! Wouh! Allez les gens, avec moi, Camille, avec moi!
Ouais, Cahuzac, président! Cahuzac, président!
Hey, c'est la lutte finale contre nous et demain la fraude fiscale sera enfin légale!
Attends.
Hey, sérieux, je suis béat d'admiration, je m'incline, j'ai trouvé mes maîtres en matière de bonnes blagues bien grasses. Cahuzac, non mais le gars quoi, des centaines de milliers d'euros détournés, un mensonge plus gros que 4 éléphants dans une 2 chevaux, le mec il était ministre chargé de combattre la fraude fiscale, il prend 2 ans ferme et il va pas en tôle. Ce soir j'attends Cahuzac, j'ai besoin de quelques leçons pour admettre la fraude fiscale et pas aller en prison. Et ce soir j'attends Cahuzac, on prendra son compte 33 pour y déposer des millions en Suisse ou au Bahamas. Cahuzac, c'est notre Noël, car c'est lui qui nous rappelle qu'on est quand même quelques millions à être pris pour des gros cons. Et ce soir j'attends Cahuzac, on ira voir Jean-Jacques pour lui dire les yeux dans les yeux que la fraude fiscale ça rend heureux. Non mais sans déconner quoi. Bon, à la base cette semaine je voulais faire une revue de presse. J'avais acheté plein de journaux, même Midi Libre. C'est dire si j'avais une patate à toute épreuve, hein. Non sans déconner quoi. Et voilà qu'en haut de page de la une, hein, ce qu'on appelle le bandeau, ce qui se trouve juste au-dessus de la manchette, et bim, un zéro pour ta culture générale, hein. Tu vois ce que je veux dire. Bref, sur le bandeau c'était titré comme suit: Lozère, la 75 pourrait devenir payante.
Oh,
la CGT est contre.
Oh.
Non mais sérieux, la CGT, t'as pas compris? Si elle devient payante cette autoroute, c'est juste pour que les bénéfices servent à créer un fonds de soutien pour Cahuzac. Cahuzac, Cahuzac, wouh, c'est pour toi Cahuzac. Et quand il comprit ça, le syndicaliste arrêta de se faire prier et se plia au désidérata d'un État qui est en train quand même de nous la mettre velue. Et qui reste silencieux. À quelques centaines de kilomètres, il y a un camp de concentration à ciel ouvert. Un massacre. Et dans leur tour de verre, quelques dirigeants fêtent bien indécemment la connerie d'un Occident. Là, franchement, j'ai plus envie de rire. J'ai juste envie de vomir. Depuis 70 ans, un peuple souffre et rien n'arrête un pouvoir d'extrême droite à commettre les pires exactions qui soient. 8 enfants. 60 morts. Et ça continue. Inlassablement. Et quand je n'arrive plus à trouver les mots, je laisse un grand monsieur les dire. Ça ne change peut-être pas grand-chose, mais ça nous rappelle à l'humilité.
La liberté d'écrire et de parler impunément marque soit l'extrême bonté du prince, soit le profond esclavage du peuple. On ne permet de dire qu'à celui qui ne peut rien. Je voudrais dédier cette chanson à ceux qui n'ont jamais la parole. Voici Trivial Pursuit. Sous quelle botte étoilée, derrière quel barbelé, sous quel champ de ruines. Question d'histoire encore, combien de victimes, combien de milliers d'enfants dans les décombres des camps deviendront combattants. J'en sais rien. Donne ma langue au chagrin. Si tu sais, toi, souffle-moi. Question de géographie, où est la Kanaki? Combien de flics, de soldats pour tenir Nouméa, pour flinguer les lois?
Et avec quelques problèmes techniques, merci quand même Ben pour cette chronique.
Avec plaisir, mais tu vois, hein. Y a les enregistrements foires parfois, vois-tu ?
Oui, ça arrive.
C'est comme le monde, ça marche sur la tête.
C'est bien, il a fallu que tu trouves une métaphore et une chute au final, donc je te félicite. Avec tout ça, il est temps de mettre fin à cette émission. Merci beaucoup à Louis Bélanger, à Ben et à Martin et Brice d'être venus nous faire un petit témoignage justement sur cette antenne. Moi, je vais vous donner rendez-vous lundi pour une nouvelle matinale, même si c'est férié, il y en aura une, tout à fait. Je vous fais des gros bisous, auditeurs et auditrices. Je vous souhaite un excellent week-end. Sûrement, vous allez à pied de borne au Festit Fou, aller faire la fête là-bas. Et puis, bon week-end, simplement. Allez,
salut.
Ciao à tous.
Question de sport, tu détiendras le record et resteras vivant, libre et innocent derrière tes barreaux. 20 ans pour Othello, autant pour Mandela. Et combien de hors-la-loi chez ces petits juges en bois dont on fait les salauds. J'en sais rien, je donne ma langue au chagrin. Si tu sais, toi, souffle-moi. Question science et nature, où balancer ses ordures? Allez, à la Bologne,
ces chiens qui assassinent, ces rats qui emprisonnent. Question de littérature qui a écrit que les hommes, laissés libres, égaux, libres, mais dans le troupeau, égaux devant les bourreaux. J'en sais rien, j'donne ma langue au chagrin. Si tu sais, toi, souffle-moi. Souffle-moi. Souffre-moi. J'en sais rien, j'donne ma langue au chagrin. Si tu sais, toi, souffle-moi. Souffle-moi. Souffre-moi.